Maître Venturelli, bonjour.
Bonjour.
La grande question est de savoir si, à travers ces lois, à travers ces réactions politiques, le Canada est plus ouvert maintenant par rapport à la question des réfugiés qu'il ne l'était en 1950. Certainement, la réponse serait oui, mais l'est-il plus qu'en 1970? Je ne sais pas si la réponse est toujours un oui très ferme. Qu'en pensez-vous?
J'ai découvert, lorsque j'ai commencé à exercer dans ce champ de compétences, un pays qui était en train de construire un droit à des réfugiés. On avait encore très peu de... On n'avait pas de tribunaux, c'était encore une procédure très administrative. Par contre, on avait une grande ouverture dans la population. Les réfugiés étaient toujours des gens que la population canadienne en général, particulièrement au Québec, accueillait avec beaucoup de chaleur et beaucoup d'empathie. En ce qui concerne le point de vue plus législatif, c'est au fur et à mesure que la loi s'est amendée, qu'on a eu une nouvelle loi dans les années 90, qu'on a eu une commission qui était un tribunal administratif qui entendait les demandes de réfugiés, ce qui a permis quand même d'encadrer un petit peu le processus et de donner beaucoup plus une écoute plus impartiale.
D'accord.
Je dirais que lorsque c'était uniquement les fonctionnaires qui étaient les décideurs. Parce qu'en fait, au début, c'était des fonctionnaires qui étaient les décideurs. On a transposé ce pouvoir entre les mains de personnes qui étaient nommées, à l'instar des juges, des commissaires, qui étaient nommés comme des décideurs indépendants.
Un processus plus impartial.
Certainement, le processus a été plus impartial. Évidemment, on a cheminé aux côtés de nos décideurs, puisque au fur et à mesure que les problèmes se présentaient, on les résolvait de façon administrative ou de façon législative. Mais je pense qu'on a abouti, avant les derniers changements législatifs, à avoir un des meilleurs systèmes au monde. Les demandeurs d'asile étaient vraiment protégés, parce que même si on n'arrivait pas, par exemple, à se faire reconnaître le statut de réfugié par la commission, on avait toujours des parapluies, je dirais. On pouvait faire des demandes humanitaires, on pouvait s'adresser au ministre. Il y avait beaucoup plus
de
possibilités et de recours pour rectifier le tir s'il y avait à un moment ou à un autre eu une incompréhension, on va dire.
Alors, vous étiez pas mal fier du système canadien et d'y travailler, d'être un des rouages importants en tant qu'avocat.
Absolument. On a vu un petit peu le système américain, le système en France avec l'OFPRA, qui sont des systèmes encore très, très arbitraires et très aléatoires, à mon sens. Peut-être un peu moins l'américain, mais en France, c'est quand même, ça me semble très arbitraire comme procédure.
Et la qualité de ce système par rapport aux réfugiés qui a été mis en place, il faut dire, est-ce que c'est vrai qu'il n'était pas qu'une décision politique, c'était aussi une décision appuyée par la population? Les gens étaient derrière ça.
Le public, en général, était extrêmement généreux. Pas seulement en faisant des dons monétaires, hein, en faisant des dons d'argent, mais aussi en donnant du temps, en s'intéressant à la question. Et je pense qu'il y a eu, je pourrais même dire, un engouement, entre guillemets, pour l'international. Je pense que le Canada s'est ouvert dans les années 80-90 au monde, et cette ouverture a fait en sorte qu'ils ont découvert également non seulement les vacances à l'extérieur, mais également les problèmes dans certains pays. Et de ce fait, l'accueil des réfugiés a été toujours quelque chose de facile.
Et à quel moment les nuages commencent-ils à se présenter dans le ciel?
Évidemment, le point culminant, c'est notre nouvelle loi. Peut-être qu'on a eu trop de... On a accueilli trop de personnes, je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne le crois pas, évidemment. Mais la façon dont on présentait les réfugiés était de plus en plus négative. Là, je pense qu'il y a aussi une... Les médias ont une certaine responsabilité là-dedans également. On mettait toujours de l'avant l'immigrant qui avait fait ceci de travers, le faux réfugié, les milliers de Mexicains qui arrivent, etc. Donc je pense que tout ça a créé un sentiment dans la population qui s'est dit ces gens-là viennent profiter de nous.
Il y a une incompréhension donc qui est née, qui est en partie encouragée, en bonne partie selon vous, par les médias.
Peut-être pas par les médias, mais par les personnes qui parlent aux médias. Forcément, vous faites le relais de ce qu'on vous dit. Donc c'est sûr que les médias...
On fait le relais de ce que vous dites, mais on choisit aussi les histoires que l'on va aborder.
Absolument. Et je pense qu'il y a eu une responsabilité des médias. Moi, je pense qu'il y a eu... Qu'il y a eu certains faits divers qui ont été montés en épingle. Et puis, ça crée une insécurité dans la population d'accueil. Moi, j'ai personnellement vécu très douloureusement l'affaire Chafia. Je pense que vous le savez peut-être. Je représentais une des victimes, Madame Rona. Et je pense que la surmédiatisation d'un acte criminel, qui pour moi c'est un simple acte criminel, s'est transformée en une espèce de nébuleuse là, anti-islamiste, anti tout ce qu'on veut, oui. Anti-étranger. Bon.
Pour ceux qui ne connaissent pas le cas, mais juste une parenthèse extrêmement courte. 4 femmes qui ont été retrouvées assassinées et dans le cadre d'un crime d'honneur, et l'affaire a été jugée et condamnée. 2 personnes sont en prison. C'est 2 ou 3 maintenant?
Trois.
D'accord.
Le père, la mère et le fils aîné.
D'accord. On referme la parenthèse. Donc, on ne montre plus les réfugiés de la même façon et cela commence à teinter un peu les conversations au sein des citoyens. Peut-être même que le politique va églaner certaines informations ou certaines...
Oui, parce que c'est devenu évidemment extrêmement porteur pour nos personnalités politiques. Toujours d'aller dans le sens, évidemment, du sentiment général qui est politiquement payant.
Là, il y a un événement majeur, c'est 2012, où on commence à dire que c'est fini, on n'aidera plus médicalement beaucoup de réfugiés qui se présentent au pays, qui sont encore, on ne sait pas quel est leur statut, et 2014, où là, c'est clair, une nouvelle loi, la loi change.
Oh, la loi a changé du tout au tout. On a fait voler en éclats un système qui fonctionnait pour le remplacer par quelque chose qui n'est pas encore très clair dans mon esprit. En tout cas, l'intérêt de la chose. Un des moteurs de cette nouvelle loi a été de dire il ne faut pas faire attendre les gens pendant 2, 3, 4 ans avant de les rassurer sur leur sort. Ça, évidemment, personne ne va dire le contraire. C'était un point important. Les demandeurs d'asile attendaient trop longtemps une décision. Maintenant, on a fait l'inverse. On va beaucoup trop vite. On va beaucoup trop vite. On a 30 ou 60 jours pour présenter un dossier. On n'a plus le temps nécessaire pour ramasser toutes les preuves qu'on aimerait déposer au soutien d'une demande. On a beaucoup de difficultés à faire effectuer des expertises psychologiques, par exemple. Le temps est beaucoup trop court et les décideurs ont eu comme mission de procéder à tout prix. On procède même sans avocat maintenant, ça ne dérange plus personne.
Vous êtes sérieuse?
Un avocat malade, le client se présente, l'avocat est malade, et bien vous procédez quand même, tant pis pour vous. Un client malade, ben si vous n'êtes pas là la prochaine fois, on ferme votre dossier. Une erreur de procédure, eh ben on ferme votre dossier. J'ai eu un cas très récemment, quelque chose d'assez scandaleux en tout cas. Une jeune femme syrienne qui arrive enceinte au Canada, c'était au début de la nouvelle loi. Donc il y a eu des petits problèmes d'ordre procédural. Elle dépose son dossier en retard. Donc on lui ferme son dossier. Et là, elle saisit un avocat qui présente une demande de réouverture en expliquant que là, il y a eu des erreurs dues à la nouvelle loi, etc. Elle ne savait pas qu'elle avait 15 jours au lieu de 20, etc. Et on refuse la réouverture. Elle n'a jamais été entendue. Alors moi, je l'ai eu au moment de la révision judiciaire en Cour fédérale. Et heureusement qu'on a encore la Cour fédérale. Là, on a eu une décision favorable qui disait « Ben non, il faut écouter cette dame-là. Ce n'était pas quelques jours de plus ou de moins là qui fait qu'elle n'est pas en danger. On ne tolère plus un retard. On ne tolère plus une erreur mineure. On ne tolère plus une absence. Et c'est devenu trop. Un des points qui avait motivé cette nouvelle loi, c'était également... l'impression générale que les demandeurs d'asile profitaient du système. Et ça, tant que cette vision-là ne changera pas, je pense que ça va être extrêmement difficile là, de reprendre un dialogue constructif.
Oui. Mais on a utilisé cet argument également dans la question des soins de santé aux réfugiés pour réduire les coûts. On pose la question au ministre responsable, Alexander, on lui demande des chiffres, mais de combien, quand on parle d'excès, d'abus, on parle de combien de dollars, de combien de personnes, et ça reste très vague.
Exactement. Écoutez, moi je pense que sur le budget du ministère, ça doit être vraiment quelque chose de ridicule comme montant, qui ne justifie pas le mal qu'on peut faire à quelqu'un qui a besoin de soins de santé. Ça, c'est la même chose en ce qui concerne l'aide sociale. On offre aux demandeurs d'asile l'aide sociale, mais on ne parle pas du nombre de demandeurs d'asile qui travaillent dans les usines, qui ramassent les pommes, qui font je ne sais quel travail bas de gamme là que personne ne veut faire. Alors, évidemment, on peut toujours faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais moi non plus, je n'ai pas vu de chiffres très clairs sur la grande économie que fait le gouvernement canadien en refusant notamment l'aide médicale à certains réfugiés.